France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors ce soir, autant le dire, c'est la Saint-Valentin, hein, c'est vrai, un moment étrange où votre couple se met d'accord pour ne pas célébrer cette fête ringarde, mais où votre moitié vous reprochera toujours de l'oublier, hein, cette fête. De toute façon, ne pas fêter la Saint-Valentin, on l'a appris aujourd'hui, c'est avant tout une histoire de santé publique, puisque le magazine 60 millions de consommateurs publie une étude démontrant que la plupart des fleurs achetées dans le commerce sont bourrées de pesticides. Ce serait quand même dommage, hein, de mettre la santé de nos bien-aimés en danger. Alors, chose assez marrante, cet article de 60 millions de consommateurs a été écrit par trois hommes. Et oui, voilà, un argument comme un autre pour regarder le match PSG-Barcelone ce soir. Et eux, ce sont les Valentine et Valentin de l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent l'avocate Caroline Mécari. Bonsoir.
Bonsoir.
Également Vincent Trémollet de Figaro. Bonsoir.
Bonsoir.
Alain Auffray de Libération. Bonsoir.
Bonsoir.
Et également Aurore Berger. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes élu des Yvelines et on pensait au départ, en vous invitant, on était très contents parce qu'on avait trouvé quelqu'un du Parti des Républicains, très rare en ce moment sur les plateaux. Et en fait, aujourd'hui, eh bien, on vous connaissait juppéiste, hein, puisque vous étiez venu ici pour nous parler d'un Juppé pendant la campagne. Et vous annoncez aujourd'hui, d'ailleurs, dans une tribune à l'Obs, que vous rejoignez Emmanuel Macron pour la campagne présidentielle. Pourquoi ce choix, Aurore Berger?
Ben justement, moi, je pense que c'est un choix cohérent par rapport à celui que j'ai fait dans le cadre de la primaire, de soutenir Alain Juppé. C'est tout le problème de la primaire, c'est qu'il faudrait que dès le lendemain, on oublie toute la campagne qui s'est passée. Et tout ce qu'on a dit pendant la campagne, mais ça peut paraître peut-être ringard, mais moi, ce que j'ai dit pendant la campagne, j'y ai cru, j'y crois encore, et je pense qu'il y avait des vraies différences, des vraies divergences, y compris de valeurs, entre le projet de François Fillon et le projet d'Alain Juppé. Mmh. Et donc, à un moment, il faut faire un choix. Est-ce qu'on est forcément coincé dans une logique d'appareil, de clan, en disant que le seul projet qu'on présente, c'est de dire qu'il faut battre la gauche, ou est-ce qu'on fait un choix qui est un choix de conviction? Et j'ai pris du temps, parce que ça faisait 14 ans que j'étais engagée à l'UMP, puis après au sein des Républicains, donc c'est pas immédiat comme décision. Mais finalement, c'était, je pense, le seul choix qui s'imposait.
Et donc, ça n'a rien à voir avec les tempêtes que traversent actuellement François Fillon et son équipe?
Ça a fait que renforcer mon choix. Je pense que ce que François Fillon fait endurer à son épouse est indigne. Et je pense qu'il n'est pas un candidat souhaitable pour la droite et probablement pas un président de la République souhaitable.
Je crois qu'il y en a au frais, vous posez
non,
une
non,
question.
Non, non, mais ce qui arrive à Aurore est un peu ce que craignent beaucoup de gens à droite, hein, dans l'équipe de François Fillon. Il y a effectivement, parmi ceux qui ont des doutes, et vous êtes nombreux, il y en a beaucoup qui nous disent il risque d'y avoir une hémorragie quand même vers chez Macron. Non, la question que je me posais, c'était est-ce que vous trouveriez logique que Alain Juppé lui-même fasse le même choix que vous? Finalement, pourquoi pas?
Je crois qu'Alain Juppé s'est déjà exprimé sur le sujet. Moi, je suis pas sa porte-parole. Enfin, Alain Juppé, il a fondé l'UMP, qui est devenu les Républicains. Je pense que c'est quelqu'un qui est d'une loyauté sans faille au parti qu'il a fondé. Donc, je comprends totalement qu'aujourd'hui, il soutienne celui qui est le candidat de sa famille politique. Et puis, il était candidat à la primaire. Il en a accepté le principe. Voilà, moi, je fais un autre choix. Je suis pas du tout au même niveau que celui d'Alain Juppé. Et je respecte son choix et je continue à regretter qu'il n'ait pas été choisi.
Et pourtant, Emmanuel Macron, on dit aujourd'hui, voilà, il a son jeune âge pour lui. Au niveau du programme, bon, bah, c'est toujours un peu le flou. On se demande finalement pourquoi aujourd'hui s'engager pour Emmanuel Macron.
Moi, je pense que le programme, c'est pas le flou. Enfin, contrairement à ce qu'on dit, je pense que ça, c'est un peu une rengaine.
Oui.
Et aussi peut-être une paresse intellectuelle de ceux qui n'ont pas envie d'aller écouter ce qui est dit. Il était cette semaine en train de présenter son projet écologique. Moi, j'étais à Lyon. J'étais au meeting qu'il a donné à Lyon, où il a eu des propositions extrêmement claires sur la question notamment du travail. Il a annoncé aussi un certain nombre de propositions sur les questions de sécurité. Enfin, donc, les propositions, il y en a déjà un certain nombre. Il a toujours dit qu'il présenterait son projet et le cadrage budgétaire aussi de son projet fin février, début mars, ce qui paraît pas extravagant dans le cadre d'une campagne présidentielle.
Mais Vincent Trémollet, je vous voyais réagir quand Aurore Berger parlait du programme.
Il a quand même dit lui-même qu'il n'avait pas de programme et que c'était un choix délibéré. Donc,
ça ne doit plus être au cœur de la campagne.
Non,
comme il
son, son programme, c'est sa personne. Il y a une chose qui le dit éloquemment, c'est son ouvrage Révolution, la quatrième de couverture. Il n'y a pas un mot, il n'y a pas une lettre, il y a son visage. Donc c'est la preuve que c'est Emmanuel Macron qu'on va chercher plus que un programme chiffré comme vous le dites ou comme il dit qu'il le dira dans un mois. Et puis je pense à une tribune de Xavier Alberti qui est un membre de la transition de la société civile qui vient parfois ici.
Exactement, et qui a rejoint
Emmanuel Macron et qui a fait une tribune assez éclairante aussi sur cette question de programme dans laquelle il dit le programme c'est nous. Donc c'est les troupes qui sont derrière lui. Donc c'est une nouvelle forme de faire de la politique. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais je crois qu'on peut dire que pour l'instant il ne présente pas de programme. C'est très difficile de définir les contours du programme d'Emmanuel Macron.
Aurore Berger.
Moi, je suis pas d'accord parce que on sait qui est Emmanuel Macron. Je veux dire, c'est un libéral. C'est un libéral, c'est quelqu'un qui est pro-européen. Moi, je trouve que c'est plutôt plaisant quand dans un meeting à Lyon, par exemple, il y a des drapeaux européens qui sont brandis. Alors que dans la plupart des meetings maintenant, on a un réflexe hyper populiste ou souverainiste, ça dépend, qui fait qu'on siffle ce qu'on appelle Bruxelles, par exemple. Et ça, c'est une ligne de clivage qui est très claire. Le clivage qui s'est exprimé, par exemple, dans le référendum de 2005 sur la Constitution européenne, je pense qu'il est peut-être beaucoup plus important que le clivage gauche-droite, et ça définit des identités politiques, et ça définit aussi, en l'occurrence, celle d'Emmanuel Macron.
Mais par exemple, la question du multiculturalisme, Macron parfois l'a revendiqué, et c'est tout à fait légitime, et puis parfois les gens qui travaillent avec Macron vous disent « mais non, pas du tout, vous avez mal compris ce qu'il a voulu dire, il n'est pas multiculturaliste ». Donc il y a un certain nombre, c'est quand même une ligne de clivage assez importante dans l'organisation de la société.
Il a été très clair, là encore, à Lyon, sur la question de la laïcité, par exemple.
Et pour l'instant, tout ça n'est pas extraordinairement précis, mais peut-être ça va devenir.
Alors, juste une petite question, Robert Berger, Alain Auffray en parlait tout à l'heure, on disait... Dès que Benoît Hamon a été élu à gauche, on a dit « Oh là, vous allez voir, il va y avoir une hémorragie ». Bon, finalement, aujourd'hui, elle n'a pas lieu. Est-ce que finalement, en effet, cette hémorragie ne viendrait pas plutôt de la droite vers Emmanuel Macron ? Est-ce que vous avez d'autres membres au sein des Républicains ? Est-ce que vous en connaissez d'autres qui souhaitent ou qui vont rejoindre Emmanuel Macron ?
Moi, je pense qu'il y aura un certain nombre de personnes qui vont rejoindre Emmanuel Macron. Je vois le nombre de messages moi, que j'ai reçus dans cette seule journée, plutôt des jeunes, hein, des trentenaires, quadras, et qui ont envie d'être dans cette dynamique-là. Je pense que c'est aussi un enjeu de génération. Est-ce qu'on a envie de rester à l'écart de cette dynamique qui peut permettre demain, si Emmanuel Macron gagne, qu'on le souhaite ou non ? Mais de fait, s'il gagne, il chamboule la vie politique française de manière durable. Les Républicains et le Parti Socialiste ne pourront pas rester de manière iso dans leur mode de fonctionnement. Ça veut dire qu'on oublie la question des primaires, parce que ça veut dire qu'on aura élu un président de la République qui, lui, n'est pas passé par ce processus-là. Alors, donc, à un moment, est-ce qu'on n'a pas envie de s'engager pour essayer de chambouler aussi cette vie politique, cette vie institutionnelle qui est quand même extrêmement rigide ?
Ce qu'on va faire, c'est quoi ? Continuez à en parler dans un instant. Caroline Mécaro, je suis désolé, voilà, je ne vous ai pas encore donné, mais vous allez pouvoir vous exprimer. Dans un instant, vous savez, à France Info, on est toujours un petit peu rigide là-dessus sur les horaires. Et l'info à 20h10, eh bien, c'est Pierrick Bonneau.
Le parquet de Bobigny ouvre une enquête préliminaire après le témoignage d'un ami de Théo qui affirme avoir lui aussi été victime de violences de la part d'un policier déjà mis en examen. L'IGPN, la police des polices, a été saisie ce midi par le ministre de l'Intérieur lui-même après la publication d'un article dans l'Obs. Mohamed K y assure avoir été passé à tabac à Aulnay-sous-Bois le 26 janvier par 4 fonctionnaires de police, dont un déjà mis en examen pour le viol présumé du jeune de 22 ans. Thierry Soler affirme avoir toujours déclaré ses revenus et annonce qu'il va porter plainte. Le porte-parole de François Fillon à son tour dans le viseur du Canard Enchaîné et de la justice. Selon l'hebdomadaire satirique, le député Les Républicains est au cœur d'une enquête pour suspicion de fraude fiscale. Ces soupçons datent de plusieurs années et résulteraient d'une dénonciation des services fiscaux. Le Royaume-Uni devrait déclencher le processus de sortie de l'Union européenne entre le 11 et le 31 mars. C'est ce qu'indique le ministre britannique chargé du Brexit. David Davis considère qu'il sera trop tôt pour que son gouvernement puisse invoquer l'article 50 du traité de Lisbonne lors du prochain sommet de l'Union, les 9 et 10 mars à Bruxelles. Et puis l'Olympique de Marseille vient d'officialiser la nouvelle il y a quelques minutes. L'international français Lassana Diarra résilie son contrat avec le club phocéen d'un commun accord avec l'OM, précise le club. Avec effet immédiat, Lassana Diarra sera resté une saison et demie avec les Olympiens.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, juste avant de passer au nouveau développement, eh bien dans une autre affaire maintenant à droite, ce n'est plus seulement François Fillon, c'est Thierry Soler. Jusqu'à Aurélie Mécari, vous vouliez poser une question, peut-être réagir à ce que disait Aurore Berger, qui donc a annoncé son ralliement à Emmanuel Macron.
Oui, non, je n'ai pas de question à poser à Aurore Berger, mais je ne partage pas son analyse sur ce qu'est le candidat Macron. En revanche, je rejoins assez l'analyse de Vincent de Trémolet-Villers sur le caractère assez factice finalement de cette candidature, dont je rappelle quand même qu'il s'agit d'un ministre de François Hollande qui, pendant plus de 3 ans, a mené cette politique ultra-libérale, enfin, en tout cas, libérale que nous avons connue et qui est vraiment ce où nous sommes arrivés, qui a abouti au renoncement de François Hollande. Réellement, vous l'avez d'ailleurs vous-même dit, hein, c'est un candidat libéral, mais qui n'a pas de programme, si ce n'est le programme du libéralisme, ça c'est très clair. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Macron fonctionne, ou en tout cas, pourquoi des gens comme vous, qui avait soutenu Alain Juppé, mais qui n'avait pas envie de soutenir Monsieur Fillon, se rallie à Monsieur Macron. Tout simplement parce que, en effet, à la fois à gauche, il y a véritablement une espèce de fracturation de toute la gauche, et que ce soit M. Mélenchon ou M. Hamon, ils ne sont pas suffisamment, en tout cas ils ne paraissent pas suffisamment importants pour pouvoir remporter la présidentielle, et à droite, on a le choix entre la peste et le choléra, c'est-à-dire entre Mme Le Pen et M. Fillon, qui est aujourd'hui englué dans des affaires jusqu'à plus pouvoir respirer.
Alors, je vous en prie, vous pouvez répondre bien sûr au Aurore Berger, après je voudrais qu'on passe quand même au débat. Allez-y, je vous en prie.
Bah, c'est du débat.
Mais bien sûr, mais au développement du jour, vous savez. Un peu ça aussi, bien sûr. Allez-y,
je pense que c'est réducteur de considérer qu'Emmanuel Macron est forcément un choix par défaut. Déjà parce qu'il était candidat et il avait annoncé être candidat avant le renoncement de François Hollande. Donc ça veut dire qu'il estimait, je pense que c'est plutôt Manuel Valls qui a fait renoncer François Hollande, si j'ai bien suivi. Ça veut dire qu'il estimait en tout cas qu'il était suffisamment légitime à être candidat, quand bien même le président de la République en exercice l'aurait été lui-même. Et je pense qu'il ne faut pas traiter avec condescendance le mouvement et la dynamique qui se forment autour d'Emmanuel Macron. On ne réunit pas à Paris 10 000 personnes par hasard, on n'en réunit pas 2 500 à Quimper ou 3 000 à Clermont-Ferrand. Aucun autre candidat n'arrive à faire ça. Aucun autre candidat n'arrive à mettre dans la salle des trentenaires et des quadras qui d'habitude se désintéressent de la vie politique ou en tout cas n'y consacrent pas du temps sur leur vie personnelle. Donc moi je pense que vraiment il ne faut pas le traiter avec condescendance. Il y a une nouvelle offre politique qui est en train de se créer. J'espère qu'elle pourra gagner et je pense en tout cas que c'est positif pour notre pays.
Alors justement,
c'est la post-politique.
On va continuer à en parler dans un instant, mais j'aurais juste qu'on parle quand même un petit peu de l'actualité du jour avec cette question. Est-ce que c'était mieux avant? On ne sait pas, hein, vu que l'on vit aujourd'hui et qu'on espère être là demain. Donc le passé, on verra plus tard. En tout cas, on peut dire qu'en matière de fronde, oui, c'était mieux avant, et notamment en 1649 où le Parlement de Paris met le pouvoir royal en péril, mais finit par renoncer. Concernant les frondeurs de gauche, bon bah tout ça n'a pas été trop concluant non plus pendant le quinquennat. Et maintenant, on doit faire face donc aux frondeurs de droite. Alors ce matin, devant le groupe des parlementaires républicain, François Fillon a réitéré sa volonté d'aller au bout de cette campagne, voilà un petit lapsus, alors qu'une trentaine de députés lui adressaient une lettre afin qu'il réunisse un bureau politique pour tenter à nouveau de trouver une solution à une situation, on va dire, tendue. Une fronde qui se transformera en frondounette, hein, puisqu'elle va virer court. Et à la fin de la réunion, le principal organisateur de ce chahut, le député du Rhône, Georges Ménec, a réitéré sa demande de réunion de bureau politique. Alors, tout va bien à droite, mais oui, bien sûr, puisqu'on vous le dit depuis 2 semaines, Thierry Solaire.
La question que vous me posez, c'est est-ce que le groupe parlementaire soutient et bien derrière son candidat? La réponse est oui. Il est totalement rassemblé derrière François Fillon. Pourquoi? Parce que chacun comprend bien, et chacun l'a rappelé d'ailleurs dans son intervention, que les Français, à maintenant moins de 70 jours du premier tour de l'élection présidentielle, ce qu'ils attendent, c'est l'alternance.
Voilà, alors ça c'était Thierry Solaire ce matin. Le problème, c'est que Thierry Solaire, depuis, eh ben, il est dans une nouvelle affaire. Ça a été révélé par le Canard Enchaîné qui sortira demain. Il est épinglé parce que le parquet de Nanterre a lancé une enquête de suspicion de fraude fiscale entre 2010 et 2013. Alain Auffray, donc après François Fillon, désormais son porte-parole officiel de campagne Thierry Solaire. Là, ça commence un petit peu à être un cercle peu vertueux.
Ouais, oui, c'est sûr. Mais au fond, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Parce que les faits qui sont reprochés à François Fillon étaient déjà, parce qu'il s'agit de François Fillon, c'est-à-dire le candidat irréprochable, très embarrassant. Ce qui vient là s'ajouter avec Thierry Solaire, moi je connais pas le fond de cette affaire du tout. Il me semble pas que ce soit de nature à changer le débat actuel à droite, voire peut-être même ça renforcera ceux qui sont convaincus qu'ils ont, on a affaire à un complot, une machination judiciaire ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que François Fillon, effectivement, pour la deuxième fois, parce que c'est la deuxième fois qu'il y a une tentative comme ça de putsch, a réussi à retourner la situation, tout simplement parce qu'il a rappelé une évidence, c'est qu'il n'y a pas de plan B. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de plan B.
Vincent Trémolet, sur cette nouvelle affaire, finalement, aujourd'hui, c'est Thierry Solaire qui est visé. Ça veut dire que ça va quand même devenir compliqué. C'est vrai que je plaisantais tout à l'heure avec Aurore Berger en disant qu'aujourd'hui, les Républicains se cachent un petit peu des médias. C'est très difficile pour nous de les inviter. Ils ne souhaitent pas venir, d'ailleurs, s'expliquer. Le porte-parole officiel qui est dans une histoire, maintenant, plus personne ne va pouvoir parler.
Alors moi, je suis comme Alain Auffray, je connais pas encore le fond du dossier. Il me semble, je partage aussi son avis, c'est-à-dire qu'il me semble que le gros coup a été porté à François Fillon sur l'affaire de son épouse et l'emploi de son épouse, et que maintenant, on est dans une queue de comète médiatique et que l'intérêt va moins être porté sur une personnalité en plus qui est moins connue. Moi, je pense que la bataille politique que Fillon l'a gagnée, celle contre les frondeurs, contre Georges Fenech, qui n'est pas le cardinal de Ré, si vous filez votre... Puisque c'était un peu compliqué, ces retournements là à chaque fois. Il y a le calendrier judiciaire. Moi, alors, nous avons une avocate sur le plateau, mais il me semble qu'il va y avoir l'ouverture d'une information judiciaire et que les délais interdisent une mise. Enfin, c'est très compliqué d'avoir une mise en examen avant le 15 mars. Ça paraît quand même compliqué. Donc, François Fillon risque fort d'être le candidat de la droite et du centre, un candidat certes abîmé par cette affaire, mais il va peut-être pouvoir recommencer à faire campagne après cette deuxième et, je pense, dernière tentative de fronde.
Juste une question à Sandrine Mollet. Le fait que parmi les frondeurs, il n'y ait que des Sarkozy, c'est un hasard total.
C'est un hasard.
C'est bizarre, non, je sais pas.
C'est pas tout à fait exact, Jean-Mathieu.
Pardon, c'est pas tout à fait exact.
Il y avait hier soir au fameux dîner des conspirateurs
au
Bourbon, il y avait deux membres de l'UDI et même un ancien soutien de Bruno Le Maire.
D'accord, donc il n'y a pas en effet, donc je retire, donc il n'y a pas que des
Sarkozy. Non, mais c'est très curieux cette frondounette, je sais pas comment vous l'avez qualifiée, mais on y va sans y aller, alors on prend date peut-être au cas où il y a une mise en examen, enfin.
Caroline Mécaré.
Non, mais je pense qu'il y a aussi, si vous voulez, ces femmes et ces hommes politiques aussi ont des retours du terrain qui sont extrêmement dévastateurs. C'est-à-dire que vous avez rappelé la problématique du présumé emploi fictif de Madame Pénélope Fillon. Il y a aussi les emplois de ses enfants, mais il y a aussi l'histoire d'échec de ristourne du Sénat. Et puis il y a aussi la problématique du conflit d'intérêts de la société 2F Conseil avec AXA, dont on rappellera que l'ancien président, Monsieur de Castries, fait partie entre guillemets de la garde rapprochée, en tout cas intellectuelle, de Monsieur Fillon. Donc Monsieur Fillon, il est dans une situation en réalité qui est absolument intenable. Mais là, moi, ce que je comprends de la situation des Républicains, c'est qu'ils n'ont en effet pas de plan B.
C'est-à-dire que
c'est ça qui est compliqué, vraiment. C'est ça qui est compliqué. Et du coup, l'affaire de Monsieur Solaire, dont on ne connaît pas le détail, parce que effectivement, le canard enchaîné n'est pas encore sorti. C'est quasi anecdotique, avec d'ailleurs toujours, moi, ce qui me fait beaucoup sourire, mais parce que j'en ai l'habitude, toujours l'annonce, je vais déposer plainte, etc., pour désamorcer la chose, alors que, en réalité, si le canard a publié l'info, c'est qu'ils ont réellement des billes. Et vous avez tout à l'heure évoqué la procédure, l'enquête du parquet national financier, dont on sait, en effet, enfin, en tout cas, les indiscrétions qu'on peut avoir semblent nous dire que l'on s'achemine vers l'ouverture d'une information judiciaire. Qu'est-ce que c'est qu'une information judiciaire? C'est la désignation d'un juge d'instruction. Si on désigne un juge d'instruction, c'est qu'on a vraiment des éléments qui permettent de mettre en examen, rapidement. Après, il y a peut-être un choix qui sera fait par l'institution judiciaire, mais l'institution judiciaire, elle s'abstrait parfois totalement des questions politiques.
On va continuer à en parler dans un instant de cette affaire, l'info, à 20h20, Pierrick Bonneau.
245 arrestations en France depuis le début des violences urbaines liées à l'interpellation du jeune Théo, chiffre fourni ce soir par le ministère de l'Intérieur. 245 arrestations qui ont débouché sur 236 gardes à vue, dont près des deux tiers à Paris et dans les trois départements de la Petite Couronne, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine et Val-de-Marne. François Fillon ne partira pas, il reste dans la course à la présidentielle. Sitôt rentré de la Réunion, le candidat de la droite est venu éteindre une nouvelle fronde dans son propre camp à l'Assemblée. Il exclut toujours de se retirer, ce qui créerait selon lui une crise majeure, d'autant qu'à ses yeux, il n'y a pas de solution alternative. Cette décision, je l'ai prise et je ne reviendrai pas dessus. Réponse de François Fillon à une vingtaine de parlementaires frondeurs. Pas de retour à la normale avant jeudi matin sur la ligne de train entre Thionville et le Luxembourg. Le conducteur luxembourgeois d'un TER a été tué dans une collision entre son train de voyageurs et un train de fret côté Luxembourg, selon France Bleu Nord. Deux personnes ont par ailleurs été hospitalisées. Et puis plus de 30 ans après la mort de Coluche, on se dispute encore ses droits d'auteur. Les fils de Michel Colucci, en conflit ouvert depuis la mort de leur père, avec son producteur Paul Lederman, obtiennent plus de 400 000 euros d'arriéré pour une série de 12 sketchs. Jugement ce soir de la Cour d'appel de Paris.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir l'avocate Caroline Mécari, Vincent Trémollet du Figaro, Alain Auffray de Libération et donc Aurore Berger qui est venue nous annoncer son soutien donc à Emmanuel Macron après avoir supporté Alain Juppé. Justement, Aurore Berger, par rapport à tout ce qui se passe, alors on va dire, dans votre ancien camp finalement aujourd'hui, comment vous le voyez justement aujourd'hui François Fillon quand il dit en effet, ça fait deux semaines, il le dit, il n'y a pas de plan B, oui, parce que c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est très difficile d'imaginer autrement. Il est passé par les primaires, il y a aussi de l'argent engagé, et pour un parti, on sait que c'est important. Aujourd'hui, François Fillon ira jusqu'au bout.
Je pense que lui, en tout cas, ne renoncera jamais. Il faut se souvenir de ce qui s'était passé, par exemple, dans la guerre interne qu'on avait connue entre Jean-François Copé et François Fillon. Il l'avait tenu jusqu'au bout, refusé de renoncer, etc., prenant le risque de faire exploser le parti. Donc je pense que là, il ira de la même manière au bout de cette démarche. Donc s'il n'est pas contraint à renoncer, et il a mis une seule condition qui était une mise en examen, il ne renoncera pas. Et je comprends que les parlementaires soient en effet atterrés parce qu'ils rentrent de leur circonscription et qu'ils entendent sur le terrain des gens, leurs propres militants, qui disent « nous, on n'a pas envie de faire campagne dans ces conditions-là parce qu'on se sent trahi, tout simplement ».
Et là où on l'a vu aujourd'hui, je crois que c'était d'ailleurs dans le Figaro aujourd'hui, ça s'est matérialisé puisqu'on s'est rendu compte que l'équipe de François Fillon, c'était impossible de trouver une date à Limoges. À Clermont-Ferrand, par exemple, Brice Hortefeux, qui est un prof, enfin voilà, qui est proche de Nicolas Sarkozy, mais aujourd'hui au service de François Fillon, ne peut pas lui trouver une salle donc à Clermont-Ferrand. On sent que tout ça, ça devient très compliqué quand même.
Oui, mais donc il faudra du temps.
En dehors des réseaux sociaux,
il reste 2 mois, donc on peut réinstaller des possibilités de meeting. L'actualité peut changer. Enfin, on est concentré là-dessus depuis 15 jours, donc ça peut bouger. Moi, je pense qu'il y a quand même deux mouvements contraires. Il y a des retours terrain de gens scandalisés, puis il y a des retours terrain de gens scandalisés à l'idée que le vote de la primaire leur soit retiré. Mmh. Et à cela s'ajoute quand même un élément de politique pure, qui est que Fillon, après 15 jours assez sévères quand même médiatiques contre lui, reste à un point d'Emmanuel Macron et tout près du ticket d'entrée du deuxième tour, donc de la présidence de la République. Il n'est pas du tout dans la situation dans laquelle était François Hollande, par exemple, au début du mois de décembre, où il était contraint de renoncer, parce que dans les sondages, il était 4e, 5e ou 6e.
Je pense que François Fillon, il a atteint le seuil minimal qui serait le seuil minimal de n'importe quel candidat à droite, en fait.
C'est-à-dire, bah, c'est
en
le effet, score de Jacques Chirac en 2002.
Oui, mais dans une configuration qui est extrêmement différente par rapport au poids électoral du Front National, qui est entre 8 et 9 millions d'électeurs sur un premier tour, et après tout dépendra du taux d'abstention.
Oui, mais il est pas loin de.
Je dis juste que voilà, il est au seuil minimal. Je pense que n'importe quel autre candidat de la primaire aurait été désigné, il serait à minima là-dessus. Bon. Mais enfin, il a quand même gagné la primaire, il fait 44% au premier tour. Il en est aujourd'hui à essayer de ressouder ses parlementaires pour qu'ils le soutiennent, alors qu'en effet il partait avec un capital énorme à l'issue d'une primaire de 4 millions d'électeurs qu'il avait largement remporté.
Alain Auffray.
Oui. Il était d'ailleurs assez amusant de l'entendre tout à l'heure devant les députés invoquer les sondages dont il s'est beaucoup moqué tout au long de sa campagne des primaires pour dire que ça allait pas si mal, et il a fait allusion à son redressement. Il s'agit là d'un demi-point dans le sondage IFOP Paris Match. C'est quand même pas extraordinaire. Mais ce qui est vrai, c'est que dans l'argumentaire de l'équipe Fillon, on nous explique qu'en effet, Jacques Chirac n'a jamais été élu à la présidence de la République avec plus que 19% au premier tour, ce qui est vrai, dans un contexte certes différent, mais voilà en tout cas où ils en sont pour se donner du cœur à l'ouvrage. Là où je suis peut-être pas d'accord, c'est qu'il pourrait être encore plus bas. Vous avez l'air de dire que 17, c'est vraiment le fond du fond.
Parce que c'est le seul minimal de la droite, des électeurs de droite.
S'il était à 15 près d'Amont, il aurait renoncé.
Voilà,
c'est quand même une tête politique.
D'accord avec ça.
Donc vous dites qu'il a du caractère et qu'il ne sait pas, mais s'il voyait que politiquement c'était cuit, et là peut-être qu'il doit penser. Alors c'était François Hollande qui disait ça, mais qui a un trou de souris.
Ouais, je suis d'accord.
Caroline Mécari, pour vous.
Alors
justement, aujourd'hui, quand vous le voyez aujourd'hui, François Fillon, c'est ce que je disais, c'est compliqué pour lui de s'exprimer parce que aujourd'hui on ne parle plus du tout de son programme. On se souvient quand il a été élu, on parlait des fonctionnaires, on parlait de la sécurité sociale. Aujourd'hui, ça fait dans cette émission, ça fait par exemple 2 semaines et demie qu'on n'en parle plus du tout de son programme. Donc, est-ce que ça va être possible, à votre avis, pour lui de s'exprimer dessus véritablement?
Je suis pas devin. Je pense qu'à un moment donné, il pourra peut-être se réexprimer sur son programme, sous réserve de ce que le parquet national financier va décider, éventuellement la désignation d'un juge d'instruction. C'est très difficile de le dire aujourd'hui.
Justement, vous qui êtes avocate, ça peut être rapide, cette décision du parti financier.
De renvoyer à la désignation d'un juge d'instruction. Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, les enquêteurs doivent avoir à peu près tous les éléments qui leur permettent de.
C'est quand même la mise en examen qui décide.
Oui, enfin bon, il y a quand même, si vous voulez, il y a aussi une posture. Pour quelqu'un qui s'est présenté comme étant absolument intègre, qui a taclé Nicolas Sarkozy sur le général de Gaulle pas mis en examen, bon, alors nous, on a entendu, madame Yvonne de Gaulle, elle n'aurait pas été mise en examen. Enfin bon, bref, ce genre de choses, voilà. Il y a un moment aussi où il faut être cohérent avec ses actes, sinon on perd absolument toute crédibilité. Parce que vous avez beau dire qu'il y a une partie de son électorat qui est très, enfin, qui souhaite qu'il reste, qui est fidèle, mais c'est pas la majorité de son électorat. Et puis alors, réellement, les dégâts Les dégâts dans la population par rapport à l'image des femmes et des hommes politiques, mais sont considérables. Il y a une responsabilité monumentale. Et aujourd'hui, celle qui monte, parti qui monte, bien que ce soit un parti qui ait un nombre de casseroles judiciaires très importantes, c'est vraiment le parti de Madame Le Pen.
Allez, dans un instant.
Dans
les informés de France Info, on parlera de la visite de François Hollande à Aubervilliers. On ira faire un petit tour aussi du côté de la Russie en passant par le MEDEF. Bref, tout ça est très compliqué, mais je vous assure que ça sera du bon. C'est la suite des informés de France Info dans quelques minutes.
Tu sais Patrick, j'ai un grand regret.
Quoi ?
J'ai raté l'immanquable, le PSG-Barça 2015 en Champions League.
Non mais tu rigoles.
Non, t'imagines la solitude à la machine à café, les mensonges aux copains... J'ai failli, Patrick. J'ai failli. Oh,
t'inquiète pas, Alex. On va arranger ça.
C'est ça, la génération Beansport. Vivez une soirée d'UEFA Champions League exceptionnelle. Le choc Paris Saint-Germain-FC Barcelone est à vivre ce soir, en direct et en exclusivité sur Beansport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beansport.com.
France Info Météo, avec VK, concepteur de fenêtres PVC, performantes et design, pour tous vos projets de construction et de rénovation. VK, VEKA.fr.
Et à Météo France, on retrouve Sébastien Léas.
Demain matin, le temps sera encore gris et pluvieux autour du golfe du Lion. Les pluies deviendront plus éparses demain après-midi, mais le ciel sera encore encombré du Languedoc-Roussillon à la Corrèze et au Puy-de-Dôme. Ciel chargé également en matinée sur la Bretagne et le Cotentin avec des averses fréquentes. Cette ligne d'averses va progressivement se décaler vers l'est en perdant de l'activité. Demain après-midi, le temps sera donc nuageux des Pays de la Loire au Pas-de-Calais et aux Côtes de la Manche, mais les averses seront rares. Partout ailleurs, la journée sera dominée par de larges éclaircies, en particulier sur la façade orientale du pays et du Poitou-Charentes au sud de la Garonne où le soleil sera encore plus généreux. Côté température, les minimales seront encore froides sur le nord-est, le mercure descendant jusqu'à moins 4 degrés en plaine d'Alsace. En revanche, les maximales seront extrêmement douces pour la saison, digne du printemps. Au meilleur de la journée, il fera 12 degrés à Cherbourg, 14 degrés à Brest et Mulhouse, 16 degrés à Paris, Lyon et Nice, 17 degrés pour Marseille et Ajaccio et on ira jusqu'à 19 degrés à Bordeaux.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Paul Ferrier, bonsoir.
Bonsoir, nouvelles accusations contre un des policiers mis en examen dans l'affaire Théo, un ami du jeune d'Aulnay-sous-Bois, accuse un des policiers de l'avoir passé à tabac une semaine avant d'avoir procédé à cette interpellation très brutale sur Théo. Bruno Leroux, le ministre de l'Intérieur, a saisi la police des polices, écoutez-le.
Je viens de saisir l'inspection générale de la police nationale d'une affaire sur laquelle il n'y avait pas de plainte, mais dont j'ai été saisi par la presse pour faire toute la lumière. Tout simplement parce que cela a trait à une situation similaire au même endroit. Et donc j'ai ouvert sans tarder, dès que j'ai eu connaissance des faits, une enquête. En tout cas, j'ai saisi l'inspection générale de la police nationale pour qu'il soit procédé ainsi. Je ne laisse rien passer, je ne veux rien laisser passer. Mais je ne fais pas d'amalgame. Quand il y a des comportements qui doivent être sanctionnés, ils le sont. Et l'IGPN est saisi chaque année de plusieurs centaines de cas de plaintes et prononce des sanctions, des avertissements, des blâmes, voire des révocations ou des mises à la retraite d'office. 71 l'année dernière. Et donc je ne laisserai pas passer l'idée que quand il y a des interventions qui ne sont pas maîtrisées, il n'y a pas de prise en compte et de sanctions qui soient prononcées.
Et ce soir, une enquête préliminaire a été ouverte à ce sujet. Bruno Leroux et François Hollande qui ont tenté d'apaiser les tensions aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Sarcelles, le chef de l'État, lui, à Aubervilliers. 12 jours après l'interpellation de Théo, il y a eu en tout 245 interpellations, principalement en Ile-de-France pour violences urbaines. Le canard enchaîné enchaîne. Dans son journal à paraître demain, l'hebdomadaire vise cette fois Thierry Solaire, le porte-parole de François Fillon. Une affaire de soupçon de fraude fiscale déjà sortie par Mediapart en septembre dernier, au moment où le parquet de Nanterre avait ouvert une enquête préliminaire. Thierry Solaire a déclaré qu'il allait porter plainte en diffamation contre le canard enchaîné et parle d'un article recyclé avec des choses fausses. François Fillon, lui, droit dans ses bottes face aux frondeurs de son propre camp. Le candidat s'est rendu aujourd'hui à l'Assemblée nationale à la rencontre de députés LR, notamment des sarkozystes, qui aimeraient bien un plan B face à la campagne à droite engluée dans le Penelope Gate. C'est moi ou le chaos, c'est en gros ce qu'a dit François Fillon. Pour le candidat, il n'existe pas de solution alternative à sa candidature. Il ira au bout. Le Parc des Princes qui doit déjà être bouillant dans moins d'un quart d'heure désormais. Le coup d'envoi du PSG face à Barcelone, 8e de finale de la Ligue des Champions, un PSG avec une petite surprise dans le couloir gauche, Kurzawa préféré à Maxwell, Draxler titulaire, côté barcelonais, Messi, Neymar, Suarez en attaque, Gomez, Busquets, Iniesta au milieu, Roberto, Piqué, Umtiti et Alba en défense. C'est bien sûr à suivre sur France Info. Et puis l'ex-triple champion du monde français de ski alpin, Adrien Duvillard, est décédé, on l'a appris aujourd'hui. Il est décédé à l'âge de 82 ans sur une piste du domaine de Megève en Haute-Savoie. La suite des informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, décidément très indisciplinés hein, ce soir, hein, puisqu'on a beau dire on y va et non, on continue à discuter, voilà, c'est normal. François Fillon, en tout cas, voilà, apporte du débat. Et ce soir, donc les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Eux, ils pétillent, bien sûr, d'actualité. Et ce soir, nous retrouvons autour de la table des informés de France Info l'avocate Caroline Mécari, Vincent Trémollet du Figaro, Alain Auffray de Libération et Aurore Berger, alors élue des Yvelines, juste un petit côté pratique. Vous avez été élu, les Républicains, désormais vous êtes élu En Marche?
Alors, pour l'instant, ça se passe comme ça. Oui. J'avais pas repris ma carte du parti en janvier, donc j'ai pas besoin de la rendre.
D'accord.
Voilà.
Très bien, d'accord. Voilà. Non, parce qu'il y a peut-être des groupes au sein du conseil municipal où vous êtes élu.
Moi, si vous voulez, sur les 29 personnes qui étaient candidates avec moi, on n'était que 5 à appartenir à un parti politique. Donc, c'était déjà un projet de rassemblement assez large.
D'accord. Donc, vous vous êtes remis aux normes. Allez, aujourd'hui, pour le gouvernement, c'était journée banlieue afin d'endiguer la vague d'incidents dans les villes de région parisienne depuis l'affaire Théo. L'exécutif a donc passé le périphérique, en premier le chef de l'État, hein, en visite à Aubervilliers, visite prévue depuis longtemps, mais qui prend forcément une autre tournure aujourd'hui, alors qu'hier soir, 12 personnes ont été interpellées en Seine-Saint-Denis pour des violences sur des véhicules notamment. En début d'après-midi, c'est Bruno Leroux, en déplacement dans le Val-d'Oise, qui a tenté d'apaiser l'ambiance autour du thème police-population. L'affaire Théo a cependant connu aujourd'hui un nouveau développement, avec le témoignage au journal, au magazine L'Obs, hein, d'un ami du jeune homme, Mohamed, donc K. Celui-ci affirme que l'un des policiers impliqués dans l'interpellation violente de Théo l'avait déjà passé à tabac une semaine plus tôt. Il faut agir et vite pour le ministre de l'Intérieur, Bruno Leroux.
Je viens de saisir il y a quelques minutes l'inspection générale de la police nationale d'une affaire sur laquelle il n'y avait pas de plainte, mais dont j'ai été saisi par la presse pour faire toute la lumière. Tout simplement parce que cela a trait à une situation similaire au même endroit. Et donc, j'ai ouvert sans tarder, dès que j'ai eu connaissance des faits, une enquête. En tout cas, j'ai saisi l'inspection générale de la police nationale pour qu'il soit procédé ainsi. Je ne laisse rien passer. Je ne veux rien laisser passer. Mais je ne fais pas l'amalgame.
Le ministre de l'Intérieur Bruno Leroux cet après-midi à Sarcelles. Caroline Mécari, c'est vrai que Bruno Leroux avait été accusé à un moment pendant le week-end d'avoir pris son temps avant de réagir concernant les violences à Bobigny. Cette fois-ci, il a décidé d'agir vite.
Oui, enfin, en tout cas, quand on entend sa déclaration, il a réagi immédiatement. Mais enfin, je pense qu'il est quand même absolument incroyable de voir que depuis maintenant des années, et ça a commencé, je pense, au minimum sous le quinquennat de Monsieur Sarkozy, les différents ministres de l'Intérieur soutiennent leur police. Alors, faut dire une chose, on aime la police et on aime la gendarmerie quand elle fait bien son travail, c'est-à-dire à la fois quand elle protège les citoyens et quand elle les respecte. Mais quand elle est dans des dérapages comme celui qui a été, enfin qui est l'histoire de Théo sur laquelle je ne vais pas revenir, on a un voile qui se lève sur quelque chose qui est parfaitement inacceptable. Et ça fait des années que les différents ministres de l'Intérieur qui se sont succédés le savent. Ils le savent parce qu'il y a un défaut de formation. Ils ont laissé faire. Il y a un défaut de formation des policiers qui sont mis sur le terrain, notamment en banlieue. On y envoie de jeunes policiers qui ne sont pas expérimentés, qui parfois ont exactement le même âge que leurs interlocuteurs en face. Et on les laisse faire. Et là, il y a vraiment quelque chose qui doit absolument cesser. C'est-à-dire qu'on doit reprendre en main, entre guillemets, la police. On doit la former correctement.
Vincent Trémollet, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ce rapport police-population. On le voit très bien. Alors, la police dit que c'est difficile de faire son travail. De l'autre, vous avez une population aussi qui dit, ben oui, mais c'est pas une raison pour parler de cette manière, pour agir de cette manière. On a l'impression que ce sont, en effet, comme disait Caroline Mécari, des combats maintenant d'il y a longtemps. Ça fait vraiment beaucoup d'années qu'on en parle et que rien ne se règle.
Il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a des pourris dans la police, bien évidemment. Et il y a peut-être des problèmes de formation. Moi, je connais pas assez précisément la police pour ça. Et comment sont formés les policiers. Mais il y a aussi, de l'autre côté, un laisser-aller dû au pouvoir public et parfois à un certain nombre de ministres de l'Intérieur, d'un parti ou d'un autre, sur un certain nombre de quartiers sur lesquels on a déversé de l'argent pour la politique de la ville, mais qu'on a abandonné culturellement, qu'on a abandonné par l'éducation nationale et qu'on a abandonné par la sécurité. Et donc, dans ces quartiers, il y a des gens qui se sont organisés. On parle souvent de zones de non-droit, mais ce sont des zones d'un autre droit, qui sont des droits des mafieux, des droits de caïds. Et donc, on se retrouve avec l'instrumentalisation, je pense, par un certain nombre de ces caïds de l'affaire Théo, avec des émeutes d'une rare violence et qui peuvent arriver à tout moment. Quand vous parlez à un expert, moi, il se trouve, j'ai travaillé sur ces sujets il y a 10 ans et je vois encore des gens qui travaillent sur ces zones-là, ils disent « la moindre étincelle » peut faire exploser le quartier.
Donc là, c'était il y a 10 ans au moment de Clichy-sous-Bois, voilà. Zia des Bounins.
Et donc, on n'en parle pas parce qu'on peut pas parler de tout, mais il y a des voitures qui brûlent tous les jours. Et donc là, on arrive à un phénomène, c'est Thibault de Montbrial qui dit ça, où on a l'impression que c'est la police et les caïds sont deux bandes rivales. Qui s'affrontent. Et là, il y a un problème d'autorité et d'égalité. C'est-à-dire que quand Bruno Leroux dit « on ne laisse rien passer », il a raison, on ne laisse rien passer quand la police fait quelque chose, mais on ne laisse rien passer quand un pompier prend un parpaing parce qu'il va essayer de sauver quelqu'un dans une cité. Et souvent, on laisse trop passer. Et ça crée un sentiment, vous parliez de Marine Le Pen qui monte dans les sondages, week-end lui a fait gagner 4 points, parce que ça crée un sentiment qui traverse la population française qui se résume en une formule un peu populaire, le deux poids, deux mesures.
Oui, mais attention, le deux poids, deux mesures, il n'est pas forcément là où vous êtes en train de le dire. C'est-à-dire que le deux poids, deux mesures, il est quand vous avez en fait des jeunes qui peuvent avoir commis des infractions, qui vont être placés en détention immédiatement pour les faits, alors que lorsque vous avez des policiers qui sont mis en cause, ils ne subissent pas la même chose. Et d'ailleurs, le policier qui est accusé d'avoir violé Théo n'a pas été placé en détention. Et dans n'importe quelle affaire ordinaire de viol, la personne aurait été placée en détention. Alors... Donc le deux poids, deux mesures, il est peut-être... Enfin, il est
mais
aussi...
Les deux camps se sentent victimes, c'est ce que je vous dis.
Mais donc, c'est bien parce que... C'est donc vraiment, il faut remettre les choses, d'une certaine manière, en ordre. Les policiers doivent apprendre... Enfin, doivent être formés. Ils doivent apprendre à garder leur sang-froid. Ils doivent être les interlocuteurs
qu'ils se disent François Hollande est allé rendre visite à Théo. Et il n'a pas été rendre visite aux deux policiers brûlés à Viry-Châtillon. C'est un sentiment qui traverse la police et qui traverse même la population.
Mais la plupart du temps, chaque fois qu'il y a des policiers qui sont blessés, le ministre de l'Intérieur monte au créneau, les soutient. Vraiment, si les policiers.
Dans le cas de Viry-Châtillon, en tout cas, le chef de l'État ne l'a pas fait.
Peut-être ça. Mais n'empêche que vous avez dit qu'en effet, on est dans une situation qui est explosive. C'est pas pour rien que François Hollande a été aujourd'hui en banlieue. Mmh. C'est bien parce qu'il sait pertinemment qu'il y a une situation explosive. Mais il est aussi responsable de cette situation. C'est-à-dire que sur les cinq dernières années qui se sont écoulées de son quinquennat, qu'est-ce qu'il a fait ?
Karine Mécari, on va continuer à parler. Je suis sûr que vous pourrez continuer vous aussi l'info à 20h40, Pierrick Bonneau.
Après le candidat, son porte-parole, une autre affaire pourrait entacher la candidature de François Fillon à la présidentielle. C'est encore une fois le canard enchaîné qui la dévoile. Elle concerne Thierry Solaire, le porte-parole du candidat. Il serait visé par une enquête pour suspicion de fraude fiscale. Elle porte sur les années 2010 à 2013. Thierry Solaire annonce qu'il va porter plainte contre le canard pour diffamation. Le parquet de Bobigny ouvre une enquête préliminaire après le témoignage d'un ami de Théo qui affirme avoir lui aussi été victime de violences de la part d'un policier déjà mis en examen. Mohamed K y assure avoir été passé à tabac à Aulnay-sous-Bois le 26 janvier par 4 fonctionnaires de police dont l'un est déjà mis en examen pour le viol présumé de Théo. Le gouvernement pendant ce temps tente d'endiguer les violences en banlieue parisienne après la vague d'incidents qui a suivi l'arrestation du jeune dans plusieurs villes autour de la capitale. Au cours d'un déplacement à Aubervilliers ce matin, le chef de l'État a souhaité que justice se passe après une nouvelle nuit d'affrontements avec les forces de l'ordre. 245 arrestations en France depuis le début des violences urbaines liées à l'interpellation de Théo, chiffre du ministère de l'Intérieur. Patrick Collot n'aura pas résisté à une série de 3 défaites consécutives sur le banc du LOSC. Les dirigeants lillois annoncent l'arrivée de Franck Passy comme entraîneur du club nordiste. L'intérim de Collot, qui avait lui-même pris la suite de Frédéric Antonetti, n'aura duré que 15 matchs pour un bilan plutôt mitigé avec seulement 6 victoires.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de la visite du gouvernement, notamment de François Hollande et de Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur, en banlieue parisienne, suite aux violences de ces derniers jours. Alain Auffray, on voit donc finalement que ça a pris une tournure politique, puisque le Front National, en effet, surfe désormais dessus avec lancement d'une pétition pour soi-disant sauver la police, et Gilbert Collard, donc député du Gard, qui lui appelle carrément à purger les banlieues. Donc là, on retrouve un vocabulaire et des thématiques qui sont propres au Front National depuis très longtemps.
Mais quand on voit ça, d'ailleurs, on peut comprendre peut-être la... Si ce n'est pas la justifier, mais on va la comprendre, la prudence du ministre de l'Intérieur. C'est sûr que quand on voit comment le Front National capitalise là-dessus, on connaît ses scores absolument formidables de popularité auprès de la police. Je crois que c'est pratiquement...
C'est très important.
40%, 50%. Ça rend la tâche quand même très compliquée pour les politiques. La visite de François Hollande aujourd'hui, quand même, c'était pas une évidence. Ça n'a pas toujours été le cas. Les présidents de la République
C'était prévu depuis longtemps, et là,
précédemment, il y avait aussi il a aussi rendu visite aux jeunes et tout à Théo. Donc, c'était pas des choses qu'il était obligé de faire. D'ailleurs, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il le ferait s'il était candidat à la présidence de la République? J'ai l'impression qu'il est plutôt plus à l'aise pour faire ce qu'il pense devoir être fait dans la situation où il se trouve aujourd'hui que s'il était candidat.
Alors Aurore Berger, il y a aussi une chose. Aujourd'hui, on a appris donc Jacques Toubon, défenseur de droit, qui en parlait hier sur France Inter. 80% des contrôles d'identité dans notre pays, en France, concernent des personnes se disant noires ou arabes. C'est là aussi, il y a un moment, c'est là où ça pose des questions sur ce rapport entre la police et une population française qui s'inquiète et qui s'interroge.
Oui, ben, je crois qu'il y avait l'idée aussi du récépissé qui a été abandonné pendant le quinquennat. Je ne sais pas si c'était la solution, mais en tout cas, c'était une solution, je pense, extrêmement symbolique. Et du coup, il y a eu aussi l'effet ricochet. C'est que quand vous abandonnez ce genre de mesures, ça envoie un signal qui est d'autant plus alarmant. C'est-à-dire, soit on assume quand c'est dans un projet présidentiel et on va au bout, mais y renoncer, ça donne un sentiment qui est que finalement, on n'assume pas cette idée. Et je pense que c'était une idée qui était positive et qui pouvait quand même essayer de rétablir une sorte de lien de confiance aussi. Parce que quand on a ce débat-là, on aurait pu en fait avoir le même il y a en effet 10 ans. J'ai pas l'impression que les choses aient évolué de manière positive sur le lien qui peut exister de confiance dans nos banlieues entre la police et certaines populations, voire même ça s'est aggravé. On a quand même le président de la République qui s'est déplacé. On a la victime qui a eu des messages extrêmement apaisants, sa famille aussi qui a eu des messages extrêmement apaisants. Ils sont restés extrêmement dignes pendant ce déferlement aussi médiatique qui s'est abattu sur eux et la violence des faits qui lui sont vraisemblablement arrivés. Et pour autant, il y a une espèce d'impossibilité de dialogue avec un syndicat de police dont le responsable a eu des propos ouvertement racistes. Enfin, c'est quand même une situation de tension qui semble comparable à celle qu'on a déjà connue.
Ce rapport police-population, on va en parler dans un instant, puisqu'on va aller, on va partir, on va faire une petite parenthèse juste, voilà, on va prendre un petit peu de respiration. C'est compliqué parfois de trouver des relations entre les sujets, mais là, on va partir, puisqu'on va parler football, c'est à Saint-Valentin, donc on parle football, c'est normal. On part au Parc des Princes pour rejoindre Jacques Vendroux et Sébastien Hazard. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Pour bien sûr le match que tout le monde attend, c'est PSG contre le FC Barcelone. Une affiche, on a presque l'habitude maintenant.
C'est une affiche magique. C'est une affiche exceptionnelle pour un huitième de finale de Ligue des Champions. C'est vrai qu'on aurait pu tomber sur un adversaire un peu plus faible, entre guillemets, à l'occasion de ces huitièmes de finale aller-retour. Mais ce soir, le Parc des Princes est plein à craquer. À noter que Thiago Silva et Thiago Motta sont absents du côté du Paris Saint-Germain. C'est important pour l'organisation générale du jeu. D'un autre côté, et bien du côté du Barcelone, et bien c'est quasiment la Dream Team avec cette ligne d'attaque incroyable. Messi, Suarez, Neymar, ils font peur à tout le monde. Et croyez-moi, ce soir, le Paris Saint-Germain, s'il obtient un résultat extrêmement positif, ce sera un exploit exceptionnel dans le monde de la Ligue des Champions. Un match à l'instant qui vient de commencer.
Ouais, et ensemble, nous sommes invincibles. C'est ce qui était marqué tout à l'heure en tribune du côté des virages du Parc des Princes. Nous verrons si le PSG est ce soir invincible. Mais un bon résultat serait bienvenu pour changer de dimension. Rêvons plus grand.
Voilà, rêvons plus grand. En tout cas, bien sûr, c'est un match que l'on pourra suivre, bien sûr, à partir de 21h dans le Classico. Cette très belle affiche. Voilà, ça nous a permis de respirer un petit peu. On va juste reprendre le cours de notre débat. Caroline Mécari, vous vouliez répondre aussi à Aurore Berger sur ce qu'elle disait sur ce rapport police-population qui aujourd'hui interroge beaucoup de Français.
Non, mais je partage ce que vient de dire Aurore Berger sur la relation entre la police et la population, ou plutôt la population qui est dans principalement dans les banlieues. Et d'ailleurs, l'étude que vous avez citée sur les personnes qui font l'objet de contrôle d'identité, de contrôle d'identité, est extrêmement révélatrice d'une espèce comme ça de système discriminatoire porté par l'État d'une certaine manière, en tout cas porté par les forces de l'ordre qui vont systématiquement contrôler cette fois plus les personnes qui sont de couleur et qui pourtant sont françaises. Mmh. Et l'intervention du syndicaliste sur ce plateau de télévision disant que le propos de Bamboula était acceptable en dit long sur le hiatus, c'est-à-dire sur cette espèce de fossé qui existe entre certains représentants de la police, et la population. Enfin, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il y a un manque de formation qui est presque criminel de la part des différents ministres de l'Intérieur.
Vincent Trémollet.
Moi, je trouve quand même qu'on fait une confusion entre deux choses. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'ordre public. Après, il peut exister des problèmes dans la police, il peut exister des problèmes dans les demandes de cartes d'identité, mais le fait qu'on demande les chiffres que vous citez ne justifie pas que l'on casse tout dans une ville. Sûr. Donc, il y a un problème d'ordre public.
Ah ouais, c'est pas la même chose.
Ce problème d'ordre public est installé depuis longtemps. Et il y a une très grande lâcheté des politiques. Alors, c'est peut-être très compliqué à faire. Moi, j'ai deux tout petits exemples. Le premier, c'est Nicolas Sarkozy, qui pendant son mandat de 2007 à 2012, va un matin dans une cité dont j'ai oublié le nom, en Seine-Saint-Denis, mais il y va entre 6h et 8h du matin simplement pour voir, pour faire une espèce d'expertise sur le terrain, parce qu'après, on dit qu'on ne peut pas assurer sa sécurité. Et puis mon deuxième exemple, c'est les confidences hallucinantes de François Hollande à Gérard Davé et Fabrice Lhomme, qui parlent de partition du territoire, en disant le danger, c'est la partition du territoire. Donc le président de la République reconnaît qu'il y a un danger d'un certain nombre de parties de la République française, où la République française ne peut plus assurer son ordre, elle n'est plus une et indivisible. Et ça, c'est quand même un autre sujet, c'est un sujet, beaucoup plus, pas majeur, tous les sujets sont importants, mais c'est la clé de ce que l'on voit là. Parce que là, on est en train de donner des excuses quasiment aux casseurs.
Non, pas du tout.
Je ne dis pas vous, on dit aux casseurs.
Moi, c'est pas du tout ce que je dis.
C'est absolument pas mon propos. Non, ce sont des gens qui disent à la République française. Au fait, la République française s'arrête là.
Et séparer aussi, bien sûr, les appels au calme de la famille de Théo. Voilà.
Et on voit qu'il est instrumentalisé puisque Théo lui-même dit ne faites pas ça.
Et les personnes qui ont été manifestées notamment ce week-end à Bobigny étaient des citoyens absolument tranquilles dans un rassemblement qui disait simplement juste vous n'avez pas à faire cela. Après qu'il y ait des débordements et que nous ne soyons pas en mesure, c'est-à-dire nous, la France, pas en mesure de les canaliser, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et quand François Hollande dit qu'il y a un risque de partition, moi je n'ai pas lu le livre, donc je ne sais pas dans quoi il le dit.
Il le dit dans
Mais c'est aussi de sa responsabilité de remédier à cette situation.
Allez, Caroline Mécari, voilà l'info à 20h50, Pierrick Bonneau.
245 arrestations en France depuis le début des violences urbaines liées à l'interpellation du jeune Théo, chiffre fourni ce soir par le ministère de l'Intérieur. 245 arrestations qui ont débouché sur un peu plus de 230 gardes à vue, dont près des deux tiers à Paris et dans les trois départements de la Petite Couronne, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne. François Fillon résiste à une nouvelle tentative de putsch au sein de son propre camp. Le candidat de la droite à la présidentielle a obtenu le soutien de la majorité des députés Les Républicains face à la fronde de un certain nombre d'entre eux, qui ont à nouveau réclamé son retrait à l'Assemblée. Plusieurs parlementaires emmenés par le sarkozyste Georges Fenech, ils ont notamment fait circuler une lettre exigeant la tenue d'un bureau politique du parti pour mettre en œuvre un plan B. Georges Fenech, qui réitère son soutien à François Fillon, mais dit craindre sur France Info un crash au premier tour. Le Royaume-Uni devrait déclencher le processus de sortie de l'Union européenne entre le 11 et le 31 mars. C'est ce qu'indique le ministre britannique chargé du Brexit, David Davis. Il considère qu'il sera trop tôt pour que son gouvernement puisse invoquer l'article 50 lors du prochain sommet de l'Union, les 9 et 10 mars à Bruxelles. Et puis la France, sacrée championne du monde de slalom parallèle par équipe, en battant la Slovaquie à Saint-Moritz en Suisse. Les Français, emmenés par Alexis Peintureau, récupèrent un titre qu'ils avaient décroché déjà en 2011.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous allons parler d'un sujet qu'on a déjà abordé ici et qui va faire sûrement la campagne présidentielle. On en parlera sûrement après encore pour connaître exactement l'impact, puisque longtemps, vous savez, on s'est méfié de ce l'œil de Moscou. Hein, vous savez, désormais, l'œil s'est acheté des lunettes et paraît encore plus près pour nous surveiller. Chaque semaine, on parle du Kremlin s'ingérant dans les affaires d'autres pays via Internet, les réseaux sociaux ou simples conversations, comme Michael Flynn, le conseiller de Donald Trump à la Sécurité nationale, qui a donc démissionné pour, je cite, contact inapproprié avec Moscou, au moment même où l'administration Obama ordonnait fin décembre des sanctions contre la Russie pour son ingérence présumée dans les élections américaines. Alors Michael Flynn assurait l'ambassadeur de Russie à Washington que le président Donald Trump serait beaucoup moins sévère. En France, on en parlait déjà la semaine dernière, ce sont les proches d'Emmanuel Macron qui accusent les médias russes de vouloir lui mettre des bâtons dans les roues et d'envoyer sur le web des fausses rumeurs sur son compte. Et pour le porte-parole d'Emmanuel Macron, il n'y a aucun doute, Benjamin Griveaux.
Deux sites très précis. Russia Today, comme par hasard, et Sputnik. Ces deux sites contrôlés à 100% par l'État russe et qui, depuis des semaines et des mois, calomnient certains candidats, en particulier Emmanuel Macron, si on dit les choses, épargnent d'autres candidats, Marine Le Pen et François Fillon, si je vous dis les choses du fond de ma pensée, et qui, dans cette période, ont une responsabilité particulière.
Est-ce que la Russie est en train de s'ingérer dans la campagne d'Emmanuel Macron ?
Elle est en train de s'ingérer dans la campagne présidentielle française, et ça n'est pas normal. La sincérité des débats doit être garantie dans cette présidentielle. Or, ces deux médias n'y participent pas.
Benjamin Griveaux, donc porte-parole d'Emmanuel Macron sur Public Sénat. Aurore Berger, est-ce que, pour vous, ce genre de rumeurs que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, est-ce que ça peut vraiment jouer un rôle quelconque de désinformation ?
Je vais vous donner un exemple qui était celui de la campagne primaire, parce que je l'ai bien vécu, puisque je travaillais justement sur la partie réseaux sociaux pour Alain Juppé. Donc je peux vous dire que toutes les rumeurs, notamment liées à la soi-disant plus grande mosquée d'Europe qui aurait été, qui était déjà là à Bordeaux évidemment, voire d'Alain Juppé qui s'était converti à l'islam.
Le fameux Ali Juppé.
Ali Juppé, clairement. Ça a eu un rôle dans l'échec d'Alain Juppé à la primaire. Je dis pas que ça explique tout, mais je dis que clairement, moi, à un moment, il y a eu un phénomène de contagion. Pourquoi ? Parce que sur les réseaux sociaux, finalement, on a cru au départ que la multiplication des sources d'informations allait permettre aux gens d'avoir plus le choix, d'aller diversifier. En fait, c'est pas ça qui se passe. Finalement, les gens vont vers ce qui les rassure et vont vers ce qui correspond le mieux à leurs idées. Et il y a un phénomène d'accumulation qui s'exerce, avec notamment des sites d'extrême droite, comme Boulevard Voltaire, comme le Salon Beige, comme les sites d'Alain Soral, etc. Et vient s'ajouter à ça des sites qui sont en effet tenus par l'État russe et qui clairement ont une envie de s'ingérer dans le débat présidentiel. Donc oui, c'est préjudiciable et clairement on voit quels sont les candidats qui sont visés.
Voilà, Alain Auffray.
C'est juste un petit peu effarant, surtout après ce qui s'est passé aux États-Unis avec les attaques contre la campagne de Clinton. Ce qui apparaît en France, c'est qu'effectivement, parmi les candidats, si il y en a un que les Russes doivent pas beaucoup aimer, c'est bien celui-là, Macron.
Emmanuel Macron, oui.
Parce qu'il y en a beaucoup, en revanche, qui font l'affaire de leur point de vue, de Fillon, Le Pen, voire même Mélenchon. Donc, c'est relativement crédible. Alors, je me suis un peu renseigné là-dessus. J'ai vu que Spoutnik, donc
oui,
qui est cité
par Benjamin Griveaux.
Donner la parole alors à un député, figurez-vous, un député Les Républicains qui s'appelle Nicolas Duyck, quand même un personnage un tout petit peu particulier, qui est celui qui rend visite aussi de temps en temps à Bachar el-Assad et qui est d'ailleurs il a jamais la parole ici en France et au sein du mouvement Les Républicains comme de l'UMP autrefois, on s'abstenait trop de le montrer, mais enfin pour les Russes, c'est visiblement interlocuteur. Alors, je ne sais pas ce qu'il a raconté sur Emmanuel Macron. Enfin, je ne pense pas qu'il ait beaucoup de...
Clairement, sur sa vie privée.
Sur sa vie privée, notamment.
Il y a deux choses différentes. Parce que Richard Ferrand, ce matin, ne disait pas la même chose que le monsieur que nous avons entendu. Et heureusement que le monsieur que nous avons entendu a précisé les choses.
Richard Ferrand, il faut juste préciser, qui est donc soutien d'Emmanuel Macron.
Disait, il y a des cyberattaques. Là, c'est pas des cyberattaques, ce sont des attaques ou peut-être des calomnies ou des malveillances venues de sites que l'on connaît, que l'on peut identifier. Il disait, il y a des cyberattaques, et avec cette phrase qui m'a paru quand même un peu bizarre, disant, et on peut les identifier parce qu'elles viennent des frontières entre l'Ukraine et la Russie. Oui, comme si les cyberattaqueurs, je ne sais pas comment on prononce, les hackers ne pouvaient pas passer par des serveurs qui viennent d'ailleurs. Donc là, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu ridicule dans ce qu'explique Emmanuel Macron. Alors, je cherche des explications et je trouve une explication qui est peut-être sa volonté d'hilarisation, parce que ça, pour le coup, politiquement, c'est pas idiot, et de faire de Marine Le Pen Donald Trump et que lui soit Hillary Clinton et d'installer cette bipolarité que les deux veulent de toute façon pour s'affronter entre les deux tours. Mais je termine juste en disant que Vladimir Poutine a peut-être beaucoup de pouvoir, mais il n'a pas le pouvoir de décider de toutes les élections dans tous les pays occidentaux. Ça me paraît un peu cinématographique comme
du mais très rapidement, s'il vous plaît, car l'incarnation de Rochette Houdet est authentique.
Il n'a pas le pouvoir de décider dans toutes les élections, mais bon, il est indéniable qu'il y a eu une ingérence russe dans les élections américaines. Et d'ailleurs, le fait que M. Flynn ait été contraint de démissionner. Non, parce que je pense que c'est la partie visible de l'iceberg en réalité sur ce qui s'est passé réellement entre Flynn et l'ambassadeur russe aux États-Unis. Sur la mise en, enfin, comment dire, sur la mise en cause de M. Macron par des officines, des sites russes, en tout cas d'obédience russe, je pense que c'est assez crédible en réalité parce que il y a un lien entre la Russie et Marine Le Pen, notamment au travers de son financement. Et je pense que pour les Russes, il est beaucoup plus intéressant de voir Marine Le Pen arriver au pouvoir et qui doit être écarté. Allez. C'est notamment M. Macron.
Ça doit se terminer,
Je n'ai pas dit que c'est une cyberattaque.
Merci beaucoup à Caroline Mécari d'être venue aux Informés de France Info. Merci Aurore Berger. On aura peut-être l'occasion de vous croiser, en tout cas pendant cette campagne, maintenant aux côtés d'Emmanuel Macron. Un petit coup d'œil à nos partenaires. La une du Figaro demain, Vincent Trémollet.
La une du Figaro demain est politique.
Bien sûr, sûrement. Elle est politique. Donc voilà, comme c'est normal, il y a eu des nouveaux développements. Donc la une du Figaro et de Libération est à découvrir demain en exclusivité dans votre kiosque, puisqu'il ne faut pas hésiter à y aller.